On parle de liberté, Claude.
Et d'une profession qui la garde, cette liberté, mais que la justice menace, affirme Le Point, qui raconte comment de grands avocats parisiens ont été espionnés par le parquet national financier entre 2014 et 2016. Le PNF poursuivait alors Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt et était persuadé qu'une taupe informait l'ancien président et son défenseur, Maître Herzog. Alors, pour trouver cette taupe, le parquet diligenta des enquêtes sur les pénalistes Thierry Temim et Éric Dupond-Moretti, interlocuteur téléphonique de Thierry Herzog. On investigua le cabinet Veil-Jourde. On vérifia tous les téléphones qui avaient borné au moins une heure près de ce cabinet. Évidemment, cela ne servit à rien. S'il y avait taupe, on ne l'a pas découverte. Mais de cette obsession du PNF naît la colère des avocats et nos doutes. Car quand on lit dans Le Point encore comment le même PNF partit à l'assaut de François Fillon, quand on lit dans Mediapart, cette fois à la suite de l'enquête, sur la longue implication de l'actuel directeur général de l'Élysée, Alexis Colère, dans les champs de l'Atlantique en dépit d'un conflit d'intérêts, on ressent un malaise envers nos magistrats modèles. Car c'est le PNF encore qui abandonna un dossier accablant contre Colère, a affirmé Mediapart après avoir eu connaissance d'une lettre du président de la République. Dans ces articles, longs et complexes, car la vérité se mérite, flotte l'idée d'un État qui en prend à son aise. Le Point se demande s'il ne faudrait pas dissoudre le parquet national financier et cite Montesquieu, « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, la vertu même a besoin de limites. » Il est bon d'avoir des lettres.
La presse regrette justement un homme de lettres.
Un sublime érudit, Léa, parti hier à 88 ans, Marc Fumaroli, qui avait découvert les livres enfants pour échapper à l'ennui, qui est, disait-il, le meilleur des pédagogues. Dans les mots d'autrefois, il comprenait notre temps et on mesure notre perte aux mots des journaux. Il était le grand esprit français, Le Figaro. Il était le dernier professeur, Marc Lambron, sur le site du Point. Et quand il se mêlait de nos affaires profanes, c'était au nom du passé à garder. Dans un fameux livre, L'État culturel, il avait dénoncé les politiques culturelles de Saint-Malraux et Saint-Jacques-Lang. L'État négligeait sa tâche de transmission en subventionnant le rock, le rap, le tag, la culture de masse américaine déjà soutenue par le marché. Il était donc un académicien marmoréen, Le Monde, un réactionnaire de charme, Le Figaro, comme son cher Chateaubriand. Mais ces étiquettes ne disent pas l'émerveillement qui habitait cet homme. Il faut alors le lire dans Le Point encore, qui ressort sur son site une merveilleuse interview de 2018 où Fumaroli s'éclairait en évoquant ses lectures. Suivons-le, il parlait de l'Énéide de Virgile. C'est écrit d'hier. L'Énéide, c'est là où se dessine le projet d'un État mondial qu'il va falloir construire de génération en génération en absorbant les cités-États qui font régner le désordre. Cette question, n'est-ce pas la nôtre aujourd'hui ? Ce qui m'a beaucoup touché lors de cette lecture, c'est le nombre de fois où Aîné, qui en horreur la guerre, s'arrête et voit devant lui un corps superbe et dit « Voilà encore de la beauté gaspillée ». En effet, on oublie souvent que la guerre, c'est de la beauté perdue. J'ai également trouvé, poursuivait Fumaroli, dans Proust, la source virgilienne des propos du baron de Charlus, qui se promène avec le narrateur dans le Paris de la Grande Guerre et qui dit « On parle de statues détruites, mais on ne dit rien sur le fait que tous ces beaux jeunes gens, qui sont des statues vivantes et colorées, sont détruits tous les jours. N'est-ce pas extraordinaire ?» disait Fumaroli. Quittant le professeur, je me demande ce que je dois penser quand je lis dans la Provence qu'à Marseille, au château de Forbin, belle bâtisse provençale du 19e siècle, on expose 130 œuvres de l'effervescente du mouvement post-graffiti du New York des années 80-90. Fumaroli, soyez indulgent.
Et on parle aussi, pour finir, Claude, rapidement d'un procès.
Qui se tient à Hambourg et que raconte Libération, le procès d'un nonagénaire, Bruno Dey, qui avait 17 ans quand il était gardien au camp nazi de Struthof et qui est jugé vieillard donc par un tribunal pour enfants. Mais de cette mise en scène autour d'un si vieil homme qui ne se souvient de rien, dit-il, naît une leçon sur la banalité du mal et ce qu'on se doit à d'autres hommes si vieux qui viennent dire à la barre ce qu'ils traversèrent, le moment et cet article en sont sacrés. Le passé affleure et s'impose à nous. Dans Le Monde, j'en termine. Lisez l'histoire de ce Français nommé Félix Morat, qui entre 1960 et 1980 sillonnait en déesse le haut atlas marocain. Il recruta pour les mines du Nord des dizaines de milliers de jeunes paysans qui accouraient à son rendez-vous vers le rêve français. Il leur tâtait les muscles et tamponnait leur poitrine de rouge s'il les jugeait malingres, de vert s'il les acceptait. Les recalés essayaient d'effacer à la javel la marque rouge de la honte. Ainsi commença l'immigration marocaine de la puissance d'un Français sur des marchés humains, des souvenirs reviennent et ce passé n'affleure pas, il nous dit.
Merci Claude Ascolovitch.